Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Décousu et j'ai trop hâte de vous partager cet épisode. On va parler de la symbolique et de l'histoire des couleurs. Oui, ça change complètement de ce que je vous propose habituellement, mais c'est vraiment l'objectif de mon podcast et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les couleurs, et qui forcément ont un rôle important au quotidien dans ma vie, dans mon travail. Donc je me suis dit que ça serait plutôt intéressant de vous proposer ce petit concept. J'ai écrit tout un script, c'est un petit peu long. Donc cet épisode va se dérouler en plusieurs parties. Je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie de ces épisodes ou de tous les autres épisodes de manière générale. Les couleurs ont un rôle important dans notre quotidien sans qu'on s'en rende forcément compte. Elles influencent nos humeurs, elles sont le reflet aussi de notre personnalité, sont utilisées dans les médias pour nous influencer. Et oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Les médias les utilisent pour manipuler parfois nos pensées ou pour nous pousser à l'achat, compulsif ou pas, peu importe, mais pour nous pousser à faire des achats. Elles sont celles que l'on regarde aussi quand on achète un vêtement. Peut-être que vous ne faites pas attention, mais naturellement, vous vous dirigez vers des couleurs qui vous attirent. Elles sont parfois à l'origine de vos achats, bien plus que de la forme du vêtement. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans ce nouvel épisode de podcast, je vous décrypte la symbolique des couleurs et leurs histoires, parce que c'est tellement intéressant que je me suis dit que j'étais obligée de partager ça avec vous. Vous allez pouvoir découvrir que nous sommes toujours influencés par des croyances et des faits anciens. C'est hyper surprenant, mais pourtant c'est tellement vrai. Je vous parlais du vêtement et justement, on va beaucoup en parler dans ce podcast. Sachez qu'il a joué un énorme rôle, un très grand rôle pour populariser certaines couleurs. Cette popularisation est toujours d'actualité. C'est juste génial. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi j'en ai quand je lis ce genre de sujet, quand je travaille ce genre de sujet. On va commencer avec la couleur bleue. Le bleu représente la spiritualité, la royauté, la vérité et la sagesse. Il est devenu au XXe siècle une couleur froide et un symbole de propreté. Le bleu est associé au rêve, à la paix. D'ailleurs, les casques bleus sont en bleu et portent le nom casque bleu. Il est aussi la couleur la plus aimée et la plus appréciée en Occident, en France et aux États-Unis, et autant par les femmes que les hommes et de tous les milieux professionnels. C'est juste incroyable. Il a une puissance, ce bleu, c'est waouh. C'est d'ailleurs pour l'une de ces raisons qu'il figure comme emblème dans de grands organismes internationaux, comme le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, regardez, notre drapeau est bleu, l'UNESCO, avec un drapeau bleu, des logos bleus, ou encore l'ONU, toujours dans une communication bleue. Mais il faut savoir que le bleu n'a pas toujours été autant apprécié, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Des études démontrent que la couleur bleue n'était pas présente dans les grottes paléolithiques ni dans les grottes néolithiques. Dans l'Antiquité, il n'était pas considéré comme une couleur, sauf pour l'époque d'Égypte pharaonique, où là, c'était une couleur qui portait clairement bonheur. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de coiffes et d'objets bleus sur l'époque égyptienne. De ce fait, sur ces époques, il est clairement banni des textes religieux. Mais du coup, vous pouvez me demander comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est devenu la couleur la plus appréciée dans le monde. Eh bien, je vais évidemment vous expliquer et vous allez être extrêmement surpris. C'est le vêtement qui va le propulser en couleur star. Je vous explique, je ne vais pas trop vite, je vous explique. En fait, un changement profond des idées religieuses va changer la place du bleu dans notre société. Au XIIe siècle, le dieu des chrétiens devient dieu de lumière et la lumière devient bleue. Tous les ciels sont alors à cette époque représentés en bleu, alors qu'avant ils étaient toujours représentés en noir, en rouge, en blanc ou encore en doré. Pourquoi ces couleurs-là ? Parce qu'en fait, pendant très longtemps, il n'a existé que trois couleurs, le rouge, le noir et le blanc. Et alors, vous allez être surpris, comme je vous disais, c'est un vêtement et c'est plutôt une figure que tout le monde connaît, hein, toute religion confondue, qui a popularisé le bleu. Vous avez une petite idée ? Allez, je vous dis tout. C'est la Vierge qui a donné une nouvelle dimension à la couleur bleue. Habitant le ciel, donc le bleu, nos ancêtres l'ont vêtu d'une robe bleue. C'est donc clairement la Vierge qui vient renverser la place de la couleur dans la société en la rendant divine. C'est juste incroyable. Une autre raison moins divine, et je dirais propre à la volonté de l'homme de tout le temps, tout vouloir hiérarchiser, etc., va mettre en avant aussi le bleu. Alors, il faut savoir qu'au XIIe siècle, seules trois couleurs existent. Comme je vous le disais, le noir, le rouge et le blanc. Et en fait, à cette époque, une grande classification a lieu, et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les noms de famille, les armoiries, les insignes de fonction. Sauf que clairement, avec ces trois couleurs, il n'y a pas de quoi créer de nouveaux emblèmes, etc. En fait, ça les restreint trop dans leur communication, on va dire ça comme ça. Du coup, ils arrivent à faire du bleu, du jaune et du vert. Et ces couleurs-là apparaissent. Il y a aussi un autre vêtement qui va complètement populariser le bleu. Et ça, vous allez être extrêmement surpris. Peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais en 1850, une vague de bleu déferle, en tout cas, premièrement sur les États-Unis. Un vêtement iconique et qui l'est encore aujourd'hui fait son apparition. Lévi-Strauss invente le jean. Et en fait, c'est un vêtement qui va énormément plaire, qui va être complètement popularisé et qui va aujourd'hui faire partie de nos basiques dans nos penderies, que vous habitiez un peu partout dans le monde. C'est devenu un incontournable. Le Lévi-Strauss est toujours d'actualité. En plus, je trouve ça juste impressionnant comment des icônes peuvent influencer encore notre quotidien, comment la mode influence encore notre quotidien. La preuve en est, le bleu découle de toutes ces raisons dont je viens de vous expliquer. Mais moi, ce que je retiens aussi, c'est surtout le fait de la robe de la Vierge et du bleu de Lévi-Strauss. En fait, ça devient populaire parce que le bleu est comme une couleur douce qui passe partout et qui plaît à tout le monde. Et d'ailleurs, des expressions utilisant le mot bleu en ce sens font leur apparition, comme être un cordon bleu. Alors, qui ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de gentil, tout doux, un petit ourson. Ça veut dire que vous êtes un bon cuisinier. Donc déjà, on a un petit amalgame là-dessus. Et vous avez aussi l'expression fleur bleue qui fait de vous une personne romantique, un peu naïve parfois. Donc voilà un petit peu pour l'histoire du bleu. On va passer à la couleur rouge, qui est extrêmement intéressante. Le rouge, c'est la couleur du mouvement. Il représente l'amour, la vie, le sang et l'enfer. C'est une couleur qui va s'imposer parce qu'elle renvoie à deux éléments omniprésents dans toute l'histoire, et devinez, le feu et le sang. Oui, il y a eu quand même énormément de batailles, c'est un peu l'histoire de l'être humain, je dirais même. Ce qui est intéressant aussi avec le rouge, c'est qu'il y a une dualité dans cette couleur. Elle peut être aussi bien associée à la faute, à l'interdit, qu'à la puissance et à l'amour. Et d'ailleurs, vous allez voir, il y a énormément de dualité dans les couleurs. Je vous expliquerai à chaque fois de toute façon. On a plusieurs rouges, et notamment le rouge sang, qui est considéré comme le symbole fondamental du principe de la vie. D'ailleurs, en Égypte, il est associé à la violence, dieu destructeur Seth, donc à ce qui est maudit. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que les scribes écrivaient les augures néfastes en rouge. Et là, je rebondis pour vous dire qu'on applique encore cette croyance aujourd'hui. On m'a toujours dit de ne jamais écrire en rouge sur des documents officiels ou même de manière générale, car c'était insultant. Je me suis toujours posé la question de l'écriture rouge qu'utilisaient les profs. J'ai toujours trouvé ça extrêmement agressif. Bon, maintenant, je comprends que ça vient d'il y a très très longtemps, de l'époque égyptienne, donc ça date. Mais j'ai toujours trouvé que le rouge avait une forme d'agression sur les documents. Je suis persuadée que si les profs corrigeaient avec du vert ou encore peut-être, pas du noir parce qu'il est assimilé au sale, à la peur aussi quelque part, mais si les profs utilisaient du vert, peut-être que les élèves se sentiraient un peu mieux et un peu moins agressés. Comme quoi la couleur a vraiment une importance sur la réception qu'on en fait, sur la compréhension qu'on en fait, sur le message qu'il passe et qu'il nous renvoie. C'est extrêmement important de faire attention aux couleurs qu'on utilise finalement. Et d'ailleurs, dans la mode, le rouge est aussi utilisé. Il est la couleur du manteau des praticiens, des centurions, des généraux et des empereurs. Il sera même la couleur des manteaux et des souverains en Europe médiévale. Et je voudrais vous faire une petite aparté sur un personnage que l'on connaît tous et qui a bercé notre enfance et qui a, malgré lui ou pas, mais qui a contribué à populariser le rouge. Allez, c'est un conte qu'on nous a raconté quand on était petit et petite. Vous trouvez ? Il s'agit du Chaperon Rouge. La fillette a toujours été représentée en rouge. Alors, j'ai cherché, en fait, il existe plusieurs conclusions au choix de cette couleur. Je vais vous les énumérer. Les historiens pensent que la fillette est en rouge, car avec cette couleur, les enfants pouvaient être vus de loin. Et c'était un problème à l'époque. Ok, pourquoi pas ? Les anciens textes disent que l'histoire se déroule entre le jour de la Pentecôte et de la fête de l'Esprit-Saint, dont la couleur du culte est le rouge. Et c'est pour ça que la cape du chaperon rouge est rouge. Les psychanalystes, eux, associent le rouge de la cape au fait que la jeune fille se trouve au lit avec le loup et que le sang allait couler. Un peu plus gore, on va pas se mentir. L'explication sémiologique explique, elle, qu'à cette époque, donc il faut savoir que le premier conte du chaperon rouge date quand même de l'an 1000. Donc à cette époque, soit trois couleurs étaient possibles, je vous en ai parlé plusieurs fois tout à l'heure, le rouge, le noir et le blanc. Dans le conte, la fillette est habillée en rouge, porte un pot blanc dans la main et a une grand-mère qui est habillée en noir. D'ailleurs, ce système de couleurs est repris dans plusieurs de nos contes, comme Blanche-Neige, qui reçoit une pomme rouge et la sorcière est habillée en noir. Le corbeau noir lâche un fromage blanc à un renard rouge. Donc vous voyez, il y a toujours une symbolique sur la couleur et je trouve ça génial et passionnant. Et maintenant, dans ces explications, c'est à vous de choisir laquelle vous semble la plus plausible. Moi, personnellement, je pense que c'est l'explication sémiologique. Dans la symbolique contemporaine, on le retrouve dans les drapeaux, les enseignes, la presse et dans la publicité. Il est associé à l'action, à la joie de vivre, à la tonicité, mais aussi au luxe et au faste. D'ailleurs, rappelez-vous, McDonald's était représenté en rouge, donc au faste. Et évidemment, plusieurs expressions ont fleuri, ont vu leur apparition. Des expressions qui sont en lien avec ce que représente vraiment la symbolique du rouge. Donc par exemple, dérouler le tapis rouge, donc le luxe. Être dans le rouge, là, ça va être le côté, on va dire, un peu plus guerre, peur, etc. Comme le signal rouge et voire rouge. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour la couleur rouge. Et maintenant, on va passer à la couleur blanche, qui est extrêmement intéressante. En fait, elles sont toutes intéressantes. Contrairement au noir et au rouge, le blanc est une couleur positive. Il est le moyen par lequel la société exprime ses plus hautes valeurs. C'est vrai, c'est un peu une couleur liée au luxe aujourd'hui, on va pas se mentir. Le blanc est présent dans les sociétés européennes, antiques, celtes et latines. La symbolique du blanc n'a jamais cessé de s'articuler autour de la pureté, comme les colombes blanches. C'est un symbole très fort que l'on retrouve jusqu'en Afrique et en Asie, pour vous dire. Presque partout sur la planète, le blanc renvoie au pur, au vierge, au propre et à l'innocent. Je vais vous expliquer un petit peu toutes ces symboliques. Dès la fin du XVIIIe siècle, les jeunes femmes doivent afficher leur virginité et cela passe par le fait de porter des robes blanches. Encore une fois, la mode était extrêmement présente, ce n'est pas moi qui le dis. Le code nous est d'ailleurs resté puisque aujourd'hui, même si le mariage n'est plus obligatoire, les femmes choisissent souvent de se marier dans une robe blanche afin de perpétuer nos anciennes traditions. D'ailleurs, si premier mariage il y a déjà eu et donc consommation il y a déjà eu, la robe ne doit pas être blanche. C'est vraiment une tradition qui est ancrée, je trouve, dans notre société actuelle. Et je vous ai dit, la mode est vraiment importante dans l'histoire des couleurs. On en a encore la preuve avec ce concept du mariage, de la couleur blanche, de la robe blanche. Et c'est pour ça aussi que je vais vous reparler de la Vierge d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, elle a longtemps été associée au bleu et Dieu est resté perçu comme une lumière blanche. D'ailleurs, reparlons un peu mode, les anges, les messagers sont également en blanc. En 1854, le blanc devient donc la deuxième couleur de la Vierge. C'est pour cette raison que les souverains, je vous rappelle, ils tiennent leur autorité du pouvoir divin. Les souverains adoptent donc la couleur blanche dans leurs étendards, dans leurs écharpes royales, la cocarde de Louis XV est blanche par exemple, ou encore le cheval blanc d'Henri IV. Vous voyez, tout est lié, c'est incroyable. Le blanc est également un symbole de virginité et d'innocence, mais il est aussi un symbole de vieillesse et de sagesse, les fameuses dualités que je vous expliquais tout à l'heure sur les couleurs. Le blanc du grand âge, celui des cheveux qui blanchissent indiquant la sérénité, la paix intérieure, la sagesse. Le blanc de la mort et du linceul rejoint le blanc de l'innocence et du berceau. Donc en fait, on commence sa vie en blanc et on termine sa vie en blanc. C'est vraiment symbolique. D'ailleurs, en Afrique et en Asie, le blanc est la couleur du deuil. Alors que nous, par exemple, on va plutôt sur des couleurs noires. Mais je vous parlerai du noir dans un prochain épisode. Le blanc a donc une autre symbolique, celle du propre. Pendant des siècles, toutes les étoffes qui touchaient les corps devaient être blancs pour des raisons d'hygiène. Le blanc est donc assimilé au propre et le noir au sale. D'ailleurs, la couleur blanche, si vous faites attention un petit peu autour de chez vous, dans votre maison, est toujours utilisée en majorité hein, pour nos baignoires, nos réfrigérateurs. Je vois aussi nos essuie-tout, nos torchons ou tous les objets de propreté sont souvent en blanc. Ce qui veut dire que c'est une croyance qui est vraiment bien ancrée. Et alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le blanc a lui aussi une double face. Il est associé à la peur. Je m'explique. Les fantômes et les spectres apparaissent depuis toujours en blanc. Il y a toujours eu des descriptions dans lesquelles ces croyances, ces fantômes, ces spectres étaient toujours faits de manière blanche et non pas dans d'autres couleurs. Et figurez-vous que ça n'a pas vraiment changé. Si vous regardez une BD, les codes des couleurs sont très clairs. Le blanc est toujours utilisé pour l'au-delà, le bleu toujours pour montrer une situation calme. Le rouge, lui, excite et le noir inquiète. Et souvent, dans les BD, on a des couleurs vraiment en aplat comme ça parce qu'en fait, ils utilisent des codes couleurs efficaces et compréhensibles de tous. Aujourd'hui, dans votre esprit, je suis sûre que si je vous dis blanc, vous pensez à tout ce qui est divin, tout ce qui est propre, tout ce qui est innocent. Quand je vous dis bleu, on a tout ce qui est calme. Quand vous voyez du rouge dans une BD ou quelque part, ça vient provoquer quelque chose chez vous, un sentiment d'excitation, que ce soit positif ou négatif. Et le noir est toujours lié, lui, à l'inquiétude, à la peur, à la mort, à la tristesse. Voilà, donc c'est des codes couleurs extrêmement efficaces qui sont encore utilisés de nos jours. Et d'ailleurs, quelques expressions ont fleuri aussi avec le blanc. Et je trouve ça sympa de vous les partager. On dit être blanchi, donc finalement, vous redevenez innocent, ou encore être blanc comme neige pour toujours parler de cette innocence. Évidemment, il y a plein d'autres questions avec le mot blanc. Je n'ai pas forcément trouvé de corrélation avec toutes les symboliques dont je viens vous parler, donc je vous cite uniquement ces deux-là. Eh bien écoutez, voilà pour ce nouvel épisode. J'ai fait plusieurs recherches pour pouvoir vous faire ce podcast. J'ai vraiment adoré. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais un script aussi grand, aussi travaillé. Non pas qu'habituellement, je ne travaille pas mes scripts, hein, je ne dis pas ça. Mais là, je me suis vraiment posée, je suis allée chercher des informations partout. Il y a une vraie recherche, donc Internet. J'ai utilisé aussi le dictionnaire des symboles et le petit livre des couleurs de Michel Pastoureau. Ces documents m'ont vraiment été très très précieux et évidemment, je vais continuer de les utiliser dans la suite des épisodes. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous faire découvrir la partie 2 de la symbolique et l'histoire des couleurs. Je vous invite à suivre mon podcast, à le noter, à me laisser un petit commentaire afin de lui apporter un petit peu de visibilité. Ça me permettrait de le faire connaître davantage et ça, c'est super bien. Ça fonctionne exactement comme sur les réseaux sociaux. Plus vous partagez, plus vous aimez, plus vous commentez, plus les plateformes d'écoute les proposeront naturellement à des personnes qui s'intéressent à ces sujets. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très bon moment et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Ciao !